Chers amis, c'est un plaisir et un privilège d'être avec vous pour ces quelques réunions sur le sujet de la maison de Dieu. Et j'aimerais lire plusieurs passages, mais tout d'abord un court passage dans le livre de Genèse. Alors dans Genèse, chapitre 3, Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tout d'abord, jusqu'ici. La pensée derrière le sujet, la maison de l'Éternel, était bien sûr de considérer un peu dans ces trois réunions l'assemblée de Dieu sous cet aspect de la maison de Dieu. Et vous savez bien que l'Assemblée est présentée dans la Bible de plusieurs angles ou sous plusieurs aspects. Il y a l'aspect important du corps de Christ, il y a l'aspect de l'épouse, il y a l'aspect de la maison de Dieu. Et chacun des trois, et en fait il y a d'autres, mérite bien notre attention et une étude approfondie. Alors cette fois-ci, nous allons nous contenter, je peux dire, de contempler juste un aspect, juste cet aspect de la maison de Dieu. Je ne sais pas, peut-être c'est différent avec vous, mais des fois je trouve que nous nous habituons à des vérités et à des pensées. Nous disons, oui, on connaît ça. Le corps de Christ, c'est la pensée de l'unité et de la variété dans l'unité. L'épouse, bien sûr, c'est le côté de l'affection. Et la maison de Dieu, bien sûr, c'est le côté de la gloire de Dieu, de l'ordre qu'il y a et de la sainteté de Dieu. Et on s'arrête peut-être là. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus derrière. Et on ne peut pas toujours étudier à fond chaque expression que nous utilisons. Mais des fois, c'est bien de reculer un peu et de juste prendre un sujet comme la maison de Dieu pour essayer de regarder de plus près. Alors, ce soir, j'essaye de commencer au début et on ne va pas aller plus loin que les premiers 3000 ans, je dirais, de l'humanité. Alors, la plupart que nous apprenons sur ce sujet viendra encore, j'espère, demain. Alors, peut-être vous dites, bon d'accord, on peut commencer au début, mais dans ce cas-là, il faut bien commencer dans le livre de l'Exode, parce que ce n'est que dans le livre de l'Exode que nous trouvons ce sujet de l'habitation de Dieu, la pensée que Dieu habite parmi son peuple. Alors, pourquoi on a commencé en Genèse et même en Genèse 3, presque tout au début? On pourrait dire juste au début, exactement au début de la race déchue. J'ai commencé là pour montrer le point de départ. Si nous voulons apprécier la pensée de la maison de Dieu et le privilège qui est lié à la maison de Dieu, je pense qu'il nous faut commencer avec le point de départ. Et le point de départ, c'est quoi? C'est exactement ce que nous avons lu. Et l'Éternel Dieu le mit hors du Jordan. Alors, l'homme, dans son innocence, n'avait jamais été dans la maison de Dieu. Mais ils, disons, l'homme et la femme, ils étaient innocents. Ils étaient dans un lieu de délices, dans un paradis. Et nous lisons que Dieu, comme il le dit au verset 8, se promenait dans le jardin. Alors, il y avait, au moins de la part de Dieu, il y avait une recherche de communion. Et on pourrait dire qu'il y avait ce lien entre Dieu, le Créateur, et l'homme, sa créature. Et cela n'a pas duré longtemps, et l'homme est tombé, est déchu. Le péché est entré. Et après cela, le point de départ est justement cela, que l'homme n'est pas seulement pas dans la maison de Dieu, mais l'homme n'est même plus dans le paradis. Il n'a même plus le droit d'être dans le jardin. Et il y a encore une chose, je peux dire, qui touche plus le centre de cette pensée. Il chassa l'homme, il plaça là les chérubins avec cette épée. Avec quel but? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus. Et goûter les fruits de l'arbre de vie, cela nous parle de la vie éternelle, cela nous parle de la jouissance de la communion avec Dieu. Et c'est exactement cela qui était rompu tout au début. L'homme est banni, l'homme est loin, l'homme est mis dehors de la présence de Dieu. Et je pense que si nous commençons à ce point-là, à ce point de départ, nous allons réaliser plus facilement quel est le privilège lié à cette pensée d'être introduit dans la maison de Dieu. Mais ce sera un long chemin. J'aimerais lire, excusez si je suis très court sur tous ces passages, mais comme j'ai dit, il faut couvrir 3000 ans ce soir, ou toucher là-dessus. Dans le chapitre 28, j'aimerais lire à partir du verset 10. Genèse 28, verset 10. Jacob sortit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet et se coucha en ce lieu-là. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle, et voici l'Éternel se tenait sur elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. » Et le Dieu d'Isaac, « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. » Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que j'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur. Et dit que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il a fait son chevet et la dressa en stèle et versa l'huile sur son sommet et il appela le nom de celui-là Bethel. Oui, jusqu'ici. Alors peut-être vous dites, ou les jeunes dites, mais pourquoi on a lu maintenant un deuxième passage où il n'y a pas de maison de Dieu? Mais en fait, et en fait c'est vrai que nous ne trouvons pas la pensée de Dieu habitant parmi des hommes en Genèse du tout, c'est vrai. Mais nous trouvons ici un lieu qui parle de cela. Ce lieu Bethel, qui, il ne faut pas connaître, on n'a pas besoin de connaître beaucoup d'hébreu pour traduire ce nom. Vous savez tous que El, ça veut dire Dieu, et Beth, ça veut dire maison. Alors, nous trouvons ici un lieu qui porte ce nom. Et c'est très intéressant que le point de départ, c'est encore une fois un homme pas vraiment banni exactement, mais c'est un fugitif, on dit. Oui. Alors, il y a Jacob qui arrive ici dans des circonstances difficiles. Il dit dans le verset 11, « Le soleil était couché ». Vous savez, c'était vrai, bien sûr, d'un point de vue littéral. C'était le soir, le soleil s'était couché. Mais c'était aussi vrai spirituellement dans la vie de Jacob. Il avait trompé son père. Il avait trompé son frère. Il devait s'enfuir. Et il est en route pour partir pour longtemps. Je crois qu'il n'a jamais revu sa mère. Alors, c'est un homme qui a commis des fautes graves, qui a une mauvaise conscience, et parler spirituellement, le soleil de la communion avec son Dieu s'était couché. Et Dieu l'amène à cet endroit, ici où il passe la nuit. Alors, il a ce rêve qu'on a lu. Et on dirait que ce rêve, c'était quelque chose de très beau. Parce qu'il y avait cette échelle qui formait, pour ainsi dire, un lien entre le ciel et la terre. Il y avait des anges qui montaient et descendaient. Alors on dirait, mais ça marche. Il y a un lien entre Dieu dans le ciel. En fait, il dit qu'il y avait Dieu là, l'Éternel se tenait sur elle, verset 13. Alors il y a Dieu, il y a Jacob et les autres sur la terre, mais il y a une échelle, il y a des anges, il y a un lien. Il y a une deuxième chose qui se passe, et on dirait ça aussi c'était merveilleux, parce que ce Dieu, il commence à parler, évidemment, il a le désir de se révéler à l'homme. Comme on a lu dans le verset 13, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père et le Dieu d'Isaac. » Alors, ce sont en fait des caractéristiques de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un endroit où Dieu se montre, où Dieu parle, où Dieu se révèle. Dieu se révèle, en fait, dans une façon, de grâce. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Il avait fait une promesse sans condition à Abraham, je te bénirai. Et Dieu dit, je suis encore ce même Dieu, je veux te bénir. aussi le Dieu d'Isaac, et je suis là pour toi, et je te donne cette bénédiction et à ta descendance. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Imaginez qu'on n'aurait pas lu la suite. Qu'est-ce qui se passe quand Jacob se réveille? Il doit dire, mais écoutez, j'ai eu un songe merveilleux. Il y avait Dieu, il s'est révélé, il m'a donné une promesse. Mais qu'est-ce qu'il dit, en fait? Verset 16. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Correct. Et moi, je ne le savais pas. Correct. Et il eut peur. Mais pourquoi? Il y avait un Dieu qui s'est montré dans une façon merveilleuse. Il dit même que ce lieu-ci est terrible. Et maintenant, il utilise cette expression, la première fois dans la Bible, je crois. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Mais encore une fois, je n'ai pas répondu à la question. Hein. Pourquoi il dit c'est terrible? Il réalise qu'il se trouve dans la présence de Dieu. Il réalise que c'est un endroit où Dieu se révèle, où il y a la porte des cieux, où il y a un lien avec le ciel. Et néanmoins, il dit, c'est un lieu terrible. Mais dans un sens, j'ai déjà donné la réponse. Parce que j'ai dit, le soleil s'était couché, spirituellement. Vous voyez, Jacob, il n'était pas dans une bonne condition. Il avait une mauvaise conscience. Il s'était enfoui. Et dans cette condition, dans cet état d'âme, on ne peut pas vraiment se réjouir de la présence de Dieu. Dans cette condition, on a peur de cette pensée de la maison de Dieu. Est-ce nécessaire? J'aimerais lire deux versets maintenant pour vous montrer où Jacob aurait dû être. Nous avons vu où il était. Il dit, ce lieu est terrible. Mais j'aimerais comparer cela avec deux versets dans les psaumes. D'abord, le psaume 26. Dans le verset 8, psaume 26, verset 8, « Éternel, j'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu de ta demeure, de la demeure de ta gloire. » Ça, c'est un autre langage, non? Là, il y a David qui ne dit pas « ce lieu est terrible », mais il dit « j'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu de ta gloire. » Et ça, c'est le point essentiel de la maison de Dieu. Le lieu de l'habitation, la demeure de ta gloire. Nous allons voir, j'espère, que c'est ça la maison de Dieu, un endroit où on peut contempler la gloire de Dieu. Et puis, juste dans le prochain psaume 27, encore une fois, David, il dit dans le verset 4, « J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. » Alors, arrêtez de lire pour un moment, s'il vous plaît. Comment vous continuez cette phrase dans votre vie? « J'ai demandé une chose et je la rechercherai. » Qu'est-ce qui est ce que nous voulons atteindre vraiment dans nos vies? Alors, David, il continue comme ça. Il dit, que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Et c'est ça la question. Si on est dans l'état dans lequel se trouvait Jacob, comment on peut arriver là où on se réjouit vraiment de la présence de Dieu? Alors continuons un peu dans Genèse 35. Genèse 35. Et Dieu dit à Jacob, verset 1, « Lève-toi, monte à Bethel, et habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfouillais de devant la face d'Ésaü, ton frère. » Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et je ferai un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. » Ils donnèrent à Jacob les dieux étrangers qui étaient en leurs mains et les anneaux qui étaient dans leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Sichem. Ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz, c'est Bethel, qui est dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui, et il bâtit là un autel, et il appela le lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui, comme il s'enfouillait de devant la face de son frère. Beaucoup de choses s'étaient passées. Beaucoup d'années s'étaient écoulées, je crois 20 ans à peu près, entre chapitre 28 et chapitre 35. Même jusqu'au chapitre 32 déjà. Jacob avait vécu dans un autre pays, pas dans le pays promis. Il avait passé des années très difficiles là-bas, mais il était dans l'école de Dieu. Et une fois qu'on arrive au chapitre 31, on voit que les choses commencent à changer. Et Dieu lui parle, il dit, Jacob, tu peux rentrer dans ton pays. Alors, Jacob, il part, il prend sa grande famille qu'il avait déjà à ce point, ses troupeaux, pour rentrer, pour être dans le pays que Dieu avait promis. Et c'est intéressant, on a parlé du soleil qui s'était couché, mais quand vous arrivez au chapitre 32, Jacob avait cette lutte, et il dit dans le verset 24, « Et un homme me lutta, et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Et verset 31, « Et le soleil se levait sur lui. » Alors là, c'était une nuit très importante. C'est la nuit où Jacob a lutté et un homme a lutté avec Jacob. Et en fait, c'était Dieu. Et qu'est-ce que Jacob a appris dans cette nuit? Il a appris qu'il n'a pas de force. Il a appris qu'il faut tenir ferme à cet homme, à Dieu, pour avoir une bénédiction. C'est un point très important dans nos vies, de comprendre que nous n'avons pas de force en nous et que toute bénédiction dépend de Dieu. Et à ce moment-là, il y a l'aurore et il y a le soleil qui se lève, le soleil qui s'était couché dans le chapitre 28. Mais après cela, Jacob, il s'installe, il était déjà dans le pays, mais il n'était pas encore à Bethel. Et ça, c'est le moment où nous arrivons au chapitre 35, où Dieu parle à Jacob, et il dit « Lève-toi et monte à Bethel. » Alors, c'est très important, très intéressant ce qui se passe ici. Parce que on se pose la question, quelle sera la réaction de Jacob? Bien sûr, il se souvenait très bien de cette nuit à Bethel. Il avait dit, ce lieu est terrible. Et maintenant, Dieu lui parle, il dit, va à cet endroit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va refuser? Et il dit, ni oui, ni non. Il fait quelque chose que Dieu, en fait, n'avait pas commandé. Dans le verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez vos vêtements. » Et nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Alors, Jacob, il veut bien obéir. Il veut bien suivre ce commandement que Dieu lui avait donné. Mais ce qu'il fait avant, cela montre qu'il a appris une leçon. Il dit, pour ainsi dire, à l'époque, la dernière fois quand j'étais à Bethel, c'était un lieu terrible parce que j'étais dans une mauvaise condition. Et je ne veux pas que cela nous arrive encore une fois. Alors cette fois-ci, on va procéder autrement. On va tout d'abord mettre de côté tous ceux qui dérangent. Les faux dieux. Peut-être vous dites, mais il aurait pu faire cela avant. Oui, c'est vrai. Ça aurait été mieux. Mais c'est bien qu'il le fasse maintenant. Qu'il encourage sa famille. Il dit, il faut être sûr d'être dans une condition qui convient à notre Dieu. Parce que notre Dieu veut se révéler à nous, à Bethel. Et nous, on veut en goûter. On veut en profiter. On ne veut pas se trouver là-bas dans une condition misérable. Alors, sa famille suit ses instructions. Il monte et ce qui arrive, c'est très très beau. Jacob construit un autel. En fait, dans le verset 2, il dit... Dans le verset premier, en fait, fais-y un autel au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfouillais de devant la face de ton frère. Mais ce sont deux choses, on pourrait dire deux autels dans la vie de Jacob. Un autel où il dit c'est l'autel pour le Dieu qui m'a aidé, qui m'a secouru dans ma vie quand j'étais dans la détresse. Mais ce qui arrive ici, c'est encore plus beau. Dans le verset 6 à la fin, il bâtit un autel et il appela le dieu El Bethel. L'autel avant, il avait appelé l'autel du dieu d'Israël, du dieu qui avait était une aide pour Israël, pour Jacob, dans ses difficultés. Et c'est bien d'avoir cet autel pour nous. Ça veut dire que nous adorons Dieu parce qu'il nous a aidés dans nos difficultés. Peut-être une maladie, peut-être une difficulté dans le travail, peut-être des soucis dans la famille. Et nous faisons cette expérience que Dieu vient en aide. Et après, nous remercions, nous construisons, pour ainsi dire, l'autel d'Israël ou du Dieu d'Israël. Et on dit merci Seigneur pour nous aider dans cette difficulté. Mais ici, il construit un autre autel. Et dans cet autel, le nom d'Israël ne figure pas. Il dit, c'est le lieu El Bethel et l'autel et l'autel de El Bethel. Alors, El Bethel, ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Alors, à ce point-là, Jacob, il n'est plus occupé tellement avec sa vie, avec les problèmes qu'il avait eus, mais il est occupé avec son Dieu. Là, nous avons une personne à Bethel qui se réjouit de cet endroit de la maison de Dieu. Alors, je voulais montrer un peu cette évolution dans Genèse. D'abord, l'homme banni, loin de la présence de Dieu. Après, un homme qui arrive à un endroit qui parle des principes de la maison de Dieu, même que Dieu n'habitait pas encore avec l'homme, et qui n'était pas à l'aise. Et finalement, dans le chapitre 35, un homme avec sa famille qui était à l'aise dans la présence de Dieu et qui était en mesure de profiter de ce Dieu de Bethel. Alors, j'aimerais passer au livre de l'Exode, dans le chapitre 15. Et le verset 17. Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation au Éternel, le sanctuaire au Dieu, au Seigneur, que tes mains ont établi. Alors, je trouve que c'est frappant. Dans un sens, il parle dans le futur ici. Tu les introduiras, tu les planteras sur la montagne de ton héritage. Mais puis il dit, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, le sanctuaire que tes mains ont établi. Alors, question pour vous. Nous sommes dans Exode 15. Où se trouve le sanctuaire ? À ce moment-là. Ce que nous avons ici, c'est un cantique, le cantique de la rédemption. Nous avons un peuple qui vient de traverser la mer Rouge et qui se tient là, sur la plage, je dirais, le bord de la mer Rouge. Ils ne sont pas dans le pays promis. Dieu n'a même pas révélé jusqu'ici où sera l'endroit pour son habitation. C'était bien plus tard que David l'a compris. Et il n'y a pas de sanctuaire. À ce moment-là, il n'y a même pas de tente. Mais c'est très beau de voir que cette pensée de l'habitation de Dieu figure dans ce cantique de la rédemption. Pourquoi ? Bien sûr, parce qu'il y a un lien entre cette pensée de l'habitation de Dieu et la rédemption de son peuple. C'est frappant que, bon, dans Genèse, on trouve un lieu qui s'appelle Bethel, maison de Dieu, mais on ne trouve pas de maison de Dieu. Et même au paradis, nous avons vu, il n'y avait pas de maison de Dieu. Pourquoi ? Parce que la pensée de la maison de Dieu est justement que l'homme est introduit dans la présence de Dieu et qu'il a été amené dans un état où il peut se réjouir de la présence de Dieu. Et cela était impossible. Pourquoi ? Parce que d'abord, il fallait un peuple racheté. Merci. Racheter, c'est le mot que je cherchais. Alors, en Égypte, Dieu n'avait pas de maison. C'était impossible parce que c'était un peuple qui était en esclavage. En plus, c'était un peuple sur lequel il y avait le jugement de Dieu. Et c'était le premier problème à résoudre et Dieu l'a résolu d'une façon merveilleuse dans la nuit de la Pâque. Il a donné cet agneau. Il a dit, si je vois le sang de l'agneau, je passerai par-dessus. Je passerai. Alors, c'est le premier point, protection du jugement de Dieu. Il a fait une deuxième chose. Parce qu'après la nuit de la Pâque, les Israélites étaient encore des esclaves. Ils étaient des esclaves rachetés. Mais ils étaient encore des esclaves parce qu'ils étaient encore en Égypte et sous la puissance du Pharaon. Alors Dieu fait une deuxième chose. Il les amène à travers de la mer Rouge et il détruit derrière eux les armées du Pharaon. Et en fait, c'est ce qui est exprimé dans ce cantique de victoire. Verset 1er, « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. » Alors, Dieu nous a rachetés et Dieu nous a affranchis ou délivrés de la puissance du péché. Et une fois que cela a été réalisé, le chemin est libre pour que Dieu habite parmi son peuple racheté. Et c'est pour cela, je pense, que cette pensée figure dans ce cantique. Et c'est très beau de voir la foi ici qui est exprimée dans ce verset 17. « Tu les introduiras et tu les planteras, non pas seulement dans le pays, mais sur la montagne de ton héritage. » Comment ils savaient cela? Que ce serait sur une montagne? Peut-être la réponse simple, c'est l'inspiration. Nous comprenons plus tard où serait ce sanctuaire à Jérusalem. Et la foi dit même le lieu que tu as préparé pour ton habitation au Éternel. C'était sûr que Dieu allait atteindre son but et à cause de cela, la foi peut dire tu l'as déjà fait. Tu as préparé ce lieu comme ta maison pour ton habitation. Le sanctuaire au Dieu que tes mains ont établi. Nous allons réfléchir un peu sur cela demain, j'espère. C'est Dieu qui habite, qui construit sa maison. Il y a deux côtés. Il y a aussi le côté de la responsabilité des hommes. Mais un côté, c'est que Dieu construit, comme il est dit ici, que tes mains ont établi. Chapitre 25. Exode 25, verset 8. « Et ils feront pour moi un sanctuaire que j'habiterai au milieu d'eux. » Une phrase très simple. « Ils feront un sanctuaire pour moi. » Mais une chose très profonde qui se passe ici. Nous arrivons un moment très important. Peut-être nous n'y pensons pas toujours, mais Moïse a vécu à peu près 1500 avant le Seigneur, avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que 2500 années s'étaient écoulées sans que Dieu habite avec les hommes. Alors, c'est un moment très important qui arrive ici, où Dieu prend la parole et il dit « Et ils feront pour moi un sanctuaire. » Alors, un sanctuaire est saint, un sanctuaire est réservé, et il lie à cela la pensée de l'habitation, il dit « Et j'habiterai au milieu d'eux. » Comment c'est possible? Nous venons de le dire. Seulement sur la base de la rédemption. Mais ce passage nous donne aussi une occasion de voir qu'est-ce qui est lié à cette pensée d'habiter. Je crois que nous comprenons cela très bien de notre vie quotidienne. Quelques-uns parmi vous ont peut-être un jour acheté une maison, peut-être une vieille maison. Et qu'est-ce qui se passe? Ça dure des fois des semaines, des fois des mois. Et la maison est changée complètement. Même si ce n'est pas une très vieille, disons une ruine, mais c'est une belle maison peut-être. Mais on change quand même. Après, il n'y a plus les mêmes images sur les murs. Il n'y a plus les mêmes meubles, plus la même tapisserie. Tout est changé. Pourquoi? Parce que la maison doit refléter un peu le caractère. Ça doit correspondre au caractère de celui qui habite. Ça doit correspondre à son goût. C'est très intéressant des fois quand on visite des personnes dans leur foyer. Cela, des fois, ça dit plus sur les personnes que tout ce qu'on avait su avant. Parce que c'est là où le caractère de cette personne est exprimé et ses goûts sont exprimés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour notre sujet? J'aimerais commencer au verset 3. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prenez d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain, tout d'abord. Alors, Dieu dit, si vous voulez construire une maison pour moi, la première chose dont vous avez besoin, c'est l'or. Il faut voir quelque chose de ma gloire. Nous avons vu cela dans le psaume 26, verset 8, la demeure de ta gloire. Alors, l'or nous parle de la gloire divine de Dieu. Il dit, vous avez aussi besoin de l'argent. Pourquoi? Mais nous venons de le mentionner parce que Dieu, c'est un Dieu sauveur. Nous avons parlé de la rédemption. Et l'argent parle de la rédemption. Alors, le bois qu'il y avait dans cette tente, dans le sanctuaire, était couvert d'or. Mais il y avait des pieds qui étaient faits de l'argent parce que les croyants reposent sur la rédemption. Et Dieu dit, dans ma maison, tout doit parler de ma gloire et de la gloire de mon fils. Il vous faudra aussi le cuivre, c'est ça? L'or, l'argent, oui, l'airain. L'airain au cuivre. Bon, l'airain aussi parle de la gloire de Dieu. Tous ces matériels métalliques parlent de la gloire de Dieu. Mais l'or, c'est la gloire essentielle de Dieu, ce qu'il est. Mais l'airain nous parle de sa gloire dans le jugement. Vous vous souvenez, par exemple, de l'autel d'airain, qui parle bien sûr du sacrifice de notre Seigneur Jésus. La victime, le sacrifice était placé sur le feu et c'est pour cela qu'il fallait l'airain. En fait, on m'a dit que c'est une très bonne méthode pour fabriquer des portes contre le feu, pour protéger contre le feu. Si on produit des portes de bois qui sont couvertes d'airain, c'est une très bonne méthode, on m'a dit, pour couper le feu. Alors, le Seigneur était dans le feu du jugement de Dieu. Et Dieu s'est glorifié dans cela. Et Dieu dit, cela doit être visible dans mon sanctuaire. Aussi, la cuve était d'airain. Parce que c'était lié à cette pensée que la souillure devait être enlevée. Mais il y avait d'autres matières qui était nécessaire. Il y avait par exemple et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate et le coton blanc. Et vous savez bien que ces matières étaient utilisées une fois déjà pour la porte d'entrée qui parle bien sûr du Seigneur Jésus et de sa vie parfaite. On trouve ici les couleurs des quatre évangiles. Il y a des interprétations différentes, mais j'entends une. Et c'est-à-dire que le bleu, bien sûr, parle du Fils de Dieu qui est venu du ciel. Il y a le blanc qui parle de la vie pure et parfaite que vous trouvez dans le livre de l'Évangile selon Luc. Nous avons aussi le pourpre et l'écarlate que nous pouvons lier peut-être avec Matthieu et Marc, le roi et aussi la pensée du serviteur qui a donné sa vie. Alors Dieu dit, si vous voulez me construire un sanctuaire, il faut que tout parle de la beauté de mon Fils. Et on pourrait continuer. Il dit aussi, et du poil de chèvre, qui parle peut-être du Seigneur comme celui qui était seul. Les peaux de bélier teintes en rouge. Le bélier, trouvé souvent dans les sacrifices, parle de la dévotion. Mais si nous avons cette peau de bélier qui était teinte en rouge, ce qui nous rappelle le sang du Seigneur. Et Dieu dit, je veux voir toutes ces choses, je veux être rappelé, pour ainsi dire, si je peux utiliser cette expression, de la dévotion de mon Fils jusque dans la mort. Des peaux de tesson qui parlent de la séparation parfaite du mal de notre Seigneur Jésus, du bois de sittim, le bois qui parle de l'humanité parfaite. Le Seigneur est vraiment devenu homme, l'homme Jésus-Christ. Et puis l'huile pour le luminaire. Il n'y avait pas de fenêtre dans la tente. On ne pouvait pas voir ses gloires à partir de la lumière naturelle. La seule source de lumière, c'était le chandelier. Et pour allumer le chandelier, il fallait l'huile d'olive. Et l'huile parle du Saint-Esprit. Et cela nous parle aussi, pour voir, pour contempler dans la maison de Dieu les beautés du Seigneur Jésus, il faut la lumière du Saint-Esprit. Pour rechercher, comme David dit, nous avons lu dans sa maison. Mais ce n'est pas fini, la liste continue. L'huile et puis les aromates pour l'huile de l'onction. Alors cette huile parle de l'odeur agréable que le Seigneur Jésus a répandue dans toute sa vie et surtout sur la croix. La croix était un lieu absolument terrible et un lieu de honte, mais en même temps, ce qui est tellement merveilleux, c'était un lieu d'où est montée une odeur agréable pour son Dieu. Et vous voyez, toutes ces choses, Dieu veut qu'il soit vu dans sa maison. L'huile de l'onction, les drogues odoriférantes, les pierres d'onyx, les pierres à encaisser pour l'éphode, pour le pectoral. Alors cela nous parle du fait que dans le sanctuaire céleste, il y a encore aujourd'hui un homme qui est encore serviteur, le souverain sacrificateur qui nous porte sur son cœur dans ce pectoral. Alors, sans avoir étudié le reste de l'Exode, que normalement il fallait pour continuer cette pensée, ce premier passage nous donne le goût. C'est juste la liste des matières qu'il fallait apporter. Mais les matières parlent de ce que Dieu veut. Dieu veut que ce soit visible dans sa maison. et j'habiterai au milieu d'eux. Nous, nous sommes habitués à lire ce passage. Mais la pensée moderne, ce serait autre chose. Hein. Ce serait de dire, mais il ne faut pas prescrire. Il faut quand même laisser un peu d'espace pour la créativité de l'homme. Chacun peut s'imaginer quelque chose. Tout le monde aura des idées. On met toutes les idées ensemble. Et à la fin, on verra ce qui en sortira. Mais Dieu dit, non, en fait, j'ai ce désir qui doit nous toucher d'ailleurs. Hein. J'aimerais habiter parmi vous. Mais si je dois habiter parmi vous, il faut que vous apportiez exactement ce qui correspond, exactement ce qui parle de mon fils. Parce que la chose essentielle de ma maison, c'est qu'on voit la gloire de mon fils. Alors, comment cela a continué? Chapitre 40, verset 34. Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. J'ai dit, il faudrait continuer jusqu'à la fin du livre. Et la plus grande partie de ces chapitres 25 jusqu'à 40 s'occupe exactement de cette question. Toutes les matières, tous les instruments, les meubles, pour ainsi dire, de cette maison où Dieu voulait habiter. Et c'est, d'ailleurs, c'est une étude, un sujet d'étude très, très beau, de s'occuper de ces choses, l'arche, la table, le chandelier, toutes ces choses qui étaient dans le sanctuaire, puis la structure. Une étude merveilleuse qui doit ouvrir nos yeux pour les beautés du Seigneur Jésus. Mais Dieu avait dit, en fait, j'ai oublié de lire dans le chapitre 25, il a dit dans le verset 9, « Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. » Alors, selon le modèle. Une fois qu'on arrive dans le chapitre 40, c'est très très beau de voir. On trouve que Moïse a fait tout selon le modèle. Il a fait tout selon les commandements de Dieu. Et quel est le résultat? La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alors, quel est le modèle pour nous? J'ai deux propositions à faire. La première, c'est que pour nous, le modèle, ce sont les instructions du Nouveau Testament. Et il nous faut faire tout selon le modèle pour faire cette expérience de la présence du Seigneur, la gloire de Dieu. Deuxième proposition, c'est que nous trouvons dans les premiers jours de l'Église aussi un modèle. Mais c'est le même modèle. Parce que là, on trouve que ces premiers chrétiens, ils ont mis en pratique l'enseignement du Nouveau Testament. Ce qui était au début. Alors c'est ça, le modèle. Et ce qui me rend très heureux, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce chemin est ouvert. Peut-être vous dites, oui, mais nous sommes dans une situation très différente aujourd'hui. Les chrétiens sont très divisés. Il y a tant d'églises, tant d'organisations qui peuvent tourner le roue derrière, disons, en arrière. Qui peut reculer? La personne. Mais Dieu ne nous demande pas cela. Dieu, grâce à Dieu, hein, il ne nous a pas demandé de défaire la ruine. Il nous demande seulement de faire tout selon le modèle. Il dit, le modèle est toujours le même. C'est le même modèle que j'ai donné dans le Nouveau Testament, c'est le même modèle que vous voyez dans les premiers chapitres des Actes, dans la pratique des croyants, et le même modèle est valable même dans le 21e siècle, jusqu'à aujourd'hui, selon le modèle. Et la promesse du Seigneur Jésus est encore valable, je serai au milieu d'eux. Alors, on a combien de temps? Moins de 10, hein? J'arrête? 5 minutes? Je vous dis seulement ce que je voulais dire. Parce que j'ai dit, j'aimerais aller jusqu'à... Bon, j'aimerais couvrir les premiers 3000 ans. On a juste fait 2500. Alors, il faut encore arriver au jour de David. Et un peu plus que David. Et après, on va retomber sur Bethel. Je ne vais plus lire les passages pour raccourcir, mais j'aimerais juste expliquer. Ici, nous avons la première réalisation de l'habitation de Dieu avec les hommes. Cette tente dans le désert. Vous savez bien, peut-être la plupart parmi vous, qu'il y en a 7. Je ne vais pas les énumérer maintenant. La deuxième, nous trouvons justement dans les jours de David, ou plutôt Salomon, quand Salomon a construit le temple. À ce moment-là, Dieu avait révélé où était l'endroit, où il voulait placer son nom. Il avait choisi Jérusalem. David avait préparé les matériaux et Salomon avait construit le temple. Et quel était le résultat quand Salomon avait fini? 1 Rois 8. Verset 10. Et la nuée remplit la maison de l'Éternel et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Encore une fois, la gloire remplit la maison, mais cette fois-ci, ce n'est plus une tente, pour ainsi dire, en voyage, mais c'est le temple qui a été établi juste à l'endroit que Dieu avait choisi, et nous savons bien que c'est tout près de l'endroit où le Seigneur, plus tard, a donné sa vie. Quand on arrive à ce moment ici, on est très heureux, hein? On dit, mais finalement, Israël a ce roi de gloire, Salomon, il a construit le temple est rempli avec cette gloire de Dieu. Quel moment heureux. Et c'est vrai. Mais combien de temps est-ce que cela a duré? Nous nous trouvons ici dans 1 Rois 8 et il ne faut que continuer jusqu'à, ou avancer jusqu'à 1 Rois 12. Et qu'est-ce qui se passe? Le royaume est divisé. Il y a les deux rois. Verset 28, il y a Jéroboam qui est dit, Jéroboam était le roi sur la partie nord, les 10 tribus, et il dit, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte, et il en mit un à Bethel, et l'autre, il le plaça à Dan. Dieu avait dit un endroit, Jérusalem. Jéroboam, il dit, c'est trop pour vous. C'est trop loin d'aller à Jérusalem. En plus, il avait peur hein, que les gens suivraient le roi Rehoboam, en français, dans le sud. Et pour cela, il dit, mais c'est bien trop, et j'ai une solution plus pratique, plus facile. On met deux centres qui sont plus proches, Bethel et Dan. Et là, il met quoi? Il met deux veaux. Est-ce qu'on n'a pas appris ce qui s'est passé dans Exode 32, 33, le veau d'or? Maintenant, Jéroboam, il fait même deux. Il dit, voici un nouveau centre, voici vos dieux, vous pouvez venir ici. Vous souvenez des deux endroits? Dan, oui, et l'autre? Bethel. C'était notre point de départ dans Genèse, Bethel. Maison de Dieu. Mais qu'est-ce qui en est arrivé dans la pratique? Un endroit d'idolâtrie où on a mis ses veaux. Dans les prophètes, Amos et Osée, je vais juste lire très rapidement, c'est plus rapide que si j'essaye d'expliquer. Amos 4, verset 4, « Venez à Bethel et péchez. » Alors le contraire de la maison de Dieu, le contraire de la sainteté. Osée 5, verset 8, criez dans Beth Aven, derrière toi, Benjamin. Et un peu plus tard, dans le chapitre 8, chapitre 10, verset 5, le veau de Beth Aven. Mais c'est quoi Beth Aven? C'est un jeu de mots. El, Bethel, ça veut dire maison de Dieu, et Beth Aven, ça veut dire maison de l'idolâtrie. Aven, c'est vanité, ce qui est rien. C'est une expression pour les idoles. Alors, on a donné ce nom à Bethel parce que, justement, cet endroit était devenu un lieu d'idolâtrie. Beth Aven. Et le prophète prophétise contre cela. Et c'est le dernier verset que j'aimerais citer ce soir, 2 Rois 2. Il y a Élie et Élisée qui visitent 4 endroits ensemble. Et le deuxième 2, c'est dans le verset 2, ils descendirent à Bethel. En fait, à chacun des 4 endroits que les deux prophètes visitent, il y a une double signification, une positive et une négative. Et on pourrait dire que c'est Élie qui pose toujours la question à Élisée, mais quel principe est-ce que tu veux suivre, le positif ou le négatif? Un des endroits qu'il visite, c'est Bethel. Alors c'est la question pour Élisée, et la question pour nous, quelle signification de Bethel est-ce que nous voulons suivre? La condition générale dans la chrétienté, c'est justement Beth Aven. C'est un abandon des principes de Bethel, du seul Dieu qui souhaite que ce qui est vu dans sa présence, c'est sa gloire. Mais la possibilité est encore là, grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, de suivre le bon principe de Bethel, de dire nous aimerions nous réunir pour faire ce que nous avons lu dans ces deux psaumes, pour voir cette demeure de la gloire de Dieu. Pour David avait ce souhait, ce désir de passer son temps jusqu'à la fin de sa vie, il dit, dans la maison de l'Éternel, parce qu'il voulait contempler la beauté de l'Éternel. C'est la perspective que Dieu nous ouvre jusqu'à aujourd'hui, de nous réunir. Quelqu'un a posé la question, qu'est-ce qui est une belle assemblée? Qu'est-ce qui fait que l'assemblée est belle? Les chants, le grand nombre de jeunes, les prédications. Et il disait, non. Ce qui fait qu'une assemblée est belle, c'est qu'on voit beaucoup de Christ. Et que le Seigneur nous donne cela, si ce soit ici ou en Allemagne où j'habite, que dans nos assemblées, les beautés et les gloires du Seigneur Jésus soient vues, soient évidentes parmi nous.